On l'a souvent dit, la guérison opérée par Jésus, cette guérison exprime parfaitement ce qu'est l'Évangile. L'Évangile nous dit que Jésus est venu rendre la vie à celles et ceux qui sont asservis, empêchés de vivre debout, droits, libres. Voilà ce qui nous est dit à travers cette histoire racontée par l'auteur de l'Évangile selon Luc. Celui qui est ressuscité à Pâques est venu pour ressusciter à son tour celles et ceux dont le regard ne parvient plus à se tourner vers le ciel, celles et ceux qui sont courbés et que la terre menace d'engloutir. La femme dont il est question ici est victime depuis 18 ans d'un esprit de maladie qui la tient courbée et qui l'empêche de se redresser complètement. C'est dire que souffrant depuis 18 ans, cette femme est considérée comme incurable. Elle n'a plus rien à attendre de la vie, elle n'a plus rien à espérer. Et effectivement, comme si elle-même avait renoncé à tout espoir, elle ne demande rien à Jésus. Elle est là, dans la synagogue, présente, mais sans interpeller celui qui enseigne la parole de Dieu. Mais la maladie ne prive pas seulement cette femme d'espérance. La maladie l'isole, pour ne pas dire l'exclut de la communauté des vivants. Au jour du sabbat, cette femme malade se tient à l'écart. Et puis, le texte dit encore qu'elle est courbée et qu'elle est incapable de se redresser complètement. Et là, les exégètes, les interprètes juifs de la tradition juive disent que quelqu'un qui est courbé ne peut plus se tourner vers le ciel, ne peut plus se tourner vers les anges qui sont les messagers de Dieu. Et c'est donc aussi la relation à Dieu. C'est dans sa relation à Dieu que cette femme est atteinte, la maladie, la coupe de Dieu. Et c'est ce que Jésus confirmera quand il dira que cette femme était liée à Satan ou par Satan. Et c'est précisément cette femme pliée par la souffrance, cette femme marginalisée socialement, en rupture avec Dieu, c'est précisément cette femme, privée d'espérance et quasi de vie, que Jésus voit et interpelle. Et Jésus ne demande rien à cette femme. Il ne l'interroge pas sur la cause de sa maladie. Il ne lui reproche pas non plus d'être là dans un lieu où l'on invoque la présence de Dieu, alors même que sa maladie est le signe de son impureté. Jésus ne demande rien à cette femme. Il n'exige d'elle ni aveu de culpabilité, ni confession de foi. De cette manière, Jésus interdit de spéculer sur les causes et les raisons de la maladie de cette femme. Il ne permet pas que l'on s'interroge sur ce pourquoi, sur le pourquoi de cette femme liée depuis si longtemps par Satan. On retiendra de cela que, à nous aussi, il n'est pas demandé, il n'est pas possible de vouloir donner un sens un sens religieux parfois, à la maladie, à la souffrance. Vouloir dévoiler les causes profondes d'une souffrance, d'une douleur, d'une destinée, cela signifie trop souvent porter un jugement sur la personne concernée, voire sur Dieu lui-même. Or, Jésus ne porte pas de jugement. Il se laisse simplement toucher par la souffrance de cette femme. Et c'est par sa douleur et rien d'autre que cette femme courbée attire l'attention de celui qui va la guérir. On a eu raison de remarquer que Jésus, tout en imposant les mains à la femme, la guérit à travers une parole. Femme, te voilà libérée de ta maladie. La parole de Jésus rend la liberté, elle rend la vie, ou plutôt elle ouvre cette parole à une vie nouvelle. La parole de Jésus est une parole de résurrection. Chaque fois que l'Évangile nous est adressé, c'est une parole de résurrection qui s'adresse à nous. Chaque fois que nous l'accueillons, nous aussi nous sommes délivrés, rendus à la vie, rendus à une vie nouvelle. Et quand Jésus dit que Jésus l'emporte, quand l'Évangile dit que Jésus l'emporte sur Satan, l'Évangile veut nous dire encore aujourd'hui que la parole que nous écoutons, l'Évangile, nous délivre nous aussi de l'emprise du mal. Certes, le mal ne cesse de s'en prendre à nous, à d'autres, à nos proches, à celles et ceux qui sont beaucoup plus loin, qui vivent dans la détresse. Mais cette puissance du mal, c'est là ce que nous dit l'Évangile, ne sera jamais absolue. Jamais le mal ne l'emportera sur celles et ceux qui ont été touchés par la parole, les gestes d'amour du Christ. À travers cette guérison, Jésus donc nous révèle une bonté inconditionnelle. La bonté inconditionnelle de Dieu qui s'offre sans discrimination aucune. Et c'est là que surgissent les questions. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant dans la bonté sans limite manifestée par Jésus? N'y a-t-il pas quelque chose de choquant dans cet amour de Dieu qui se moque des distinctions qui sont peut-être un peu les nôtres, la distinction entre celui qui est accepté et celui qui est exclu, la distinction entre le pur et l'impur, la distinction entre le permis et l'interdit. Et c'est précisément cette bonté inconditionnelle, sans discrimination, qui choque le chef de la synagogue. Lui, le chef de la synagogue, c'est au nom de la loi et des commandements de Dieu qu'il proteste contre le comportement de Jésus. En effectuant une guérison le jour du sabbat, et cela sans qu'il y ait eu urgence, malade depuis 18 ans, cette femme aurait pu rester dans cet état un jour de plus. En effectuant une guérison le jour du sabbat, Jésus se serait livré, selon le chef de la synagogue, à un travail interdit. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette attitude du chef de la synagogue. Parce qu'il nous montre qu'il est possible de faire obstacle à l'amour inconditionnel et illimité de Dieu, non pas par mépris envers Dieu, mais au contraire, dans un désir de fidélité à la volonté de Dieu. C'est par l'attachement à Dieu que des croyants peuvent faire obstacle à la bienveillance radicale de Dieu. C'est en s'appuyant sur les commandements de Dieu que le chef de la synagogue veut empêcher l'amour dont Jésus est venu témoigner d'atteindre chacune et chacun en tout lieu. En voulant définir le cadre dans lequel Jésus est en droit d'agir, le chef de la synagogue veut se donner le droit à lui de décider qui peut bénéficier de la générosité de Dieu. Et qui de nous peut prétendre être à l'abri d'une telle volonté de limiter parfois l'amour que Dieu porte à ses créatures. Dieu a-t-il vraiment le droit d'aimer celles et ceux que nous n'aimons pas? Dieu a-t-il vraiment le droit d'aimer ceux qui ne respectent pas ses lois? Dieu a-t-il le droit d'aimer celles et ceux qui mènent une vie qui contredit, qui bafoue sa volonté? Et c'est là qu'il nous faut poser une dernière question. En voulant limiter l'accès au salut, le chef de la synagogue ne se ferme-t-il pas lui-même en quelque sorte à l'amour de Dieu? En voulant faire preuve d'une obéissance irréprochable, n'est-ce pas lui en définitive qui s'enchaîne à Satan? Car à vouloir être tellement fidèle à Dieu, à vouloir être tellement reconnu par Dieu, le chef de la synagogue n'est-il pas amené à se révolter contre Dieu, ce Dieu qui lui échappe, ce Dieu qui fait témoin, qui fait preuve de son amour au-delà même de ce que le chef de la synagogue peut imaginer? N'est-ce pas en définitive le chef de la synagogue qui est un être courbé? Sa recherche parfaite d'obéissance ne le sépare-t-elle pas de Dieu? Et puis sa rigueur religieuse ne l'empêche-t-elle pas également d'être en relation avec les autres, avec celles et ceux qu'il côtoie? N'est-ce pas lui en définitive qui permet à la souffrance et au mal d'étendre son règne? Autrement dit, n'est-ce pas le chef de la synagogue qui a besoin en définitive d'être libéré, d'être redressé, d'être délivré des liens qui le tiennent captif? N'est-ce pas lui qui a besoin d'accéder à une vie nouvelle où il pourra accueillir Dieu avec reconnaissance? Dès lors, nous le comprenons. ce qui compte. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu. Ce n'est pas ce que nous valons. Ce n'est pas ce que nous voudrions être face à Dieu. Ce qui compte, c'est d'abord et uniquement ce que Dieu veut nous donner. Que Dieu nous délivre donc de tout ce qui en nous voudrait empêcher que son amour s'offre sans compter. Amen.